Bonjour à tous, je vous apporte les salutations de l'Église libre d'Orléans. C'est une habitude qu'on commence à prendre de faire des échanges de chaires réguliers et une très bonne habitude. Aujourd'hui, je vous propose de lire une histoire, ou du moins le début d'une histoire de nos Bibles. Mes filles, donc 8 ans et 5 ans, aiment bien quand on leur raconte des histoires, mais elles n'aiment pas quand il y a des méchants dans les histoires. J'essaie de leur expliquer que sans méchant, l'histoire risquait d'être ennuyeuse, qu'il fallait un problème pour avoir une intrigue, et donc un récit, mais les théories littéraires ne semblent pas trop leur parler. Et ce qui les convainc plutôt d'accepter qu'on lise tel ou tel livre, c'est que je leur promette qu'à la fin, les méchants perdent et les gentils gagnent. Et pour peu qu'on ait quelques notions du bien et du mal, et à plus forte raison, si on a la notion d'un Dieu juste et souverain, eh bien c'est l'attente basique que nous avons tous, que les méchants perdent et que les gentils gagnent. Mais quand ce principe fondamental de justice est bafoué, quand les méchants gagnent, ça nous perturbe. Ça nous perturbe dans les histoires, et ça nous perturbe à plus forte raison quand ça nous arrive à nous personnellement, quand nous faisons l'expérience de l'injustice, que ce soit par la calomnie, par l'escroquerie, par les discriminations, par les abus, etc. Il y a beaucoup de sortes d'injustices. Ça nous perturbe quand ça nous arrive à nous, mais pas seulement quand nous sommes touchés. Depuis plus d'un mois maintenant, l'actualité nous relaie jour après jour. De l'injustice, la détresse de personnes qui ne demandaient qu'à vivre en paix, mais qui se retrouvent plongées dans le chaos par des gens d'une violence et d'un cynisme sans fond. Ça nous perturbe. Et le fait que ça nous perturbe, pas seulement quand on est touché directement, ça montre bien qu'il y a quelque chose dans l'injustice qui nous révolte. Il y a quelque chose qui nous bouleverse et qui vient susciter beaucoup de questionnements. On ne peut pas juste hausser les épaules en disant « c'est la vie ». Nous ne sommes bien sûr pas les seuls à ressentir cela. Et même la Bible contient le témoignage de personnes qui se retrouvent désemparées, déboussolées devant l'injustice. Le psalmiste du psaume 73, par exemple, est passé par une véritable crise spirituelle face à l'injustice. Je vais lire quelques versets de ce psaume 73. Le psalmiste dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur, pourtant ». Il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un peu plus et je tombais, j'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Le psalmiste décrit ensuite la réussite de ces méchants et il s'interroge. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Face à l'injustice, on n'a pas de réponse facile. Et la Bible ne nous propose pas de réponse facile. Elle nous offre des certitudes, une espérance, mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de « tout est bien qui finit bien » simpliste. Et c'est tout particulièrement le cas de notre récit ce matin. C'est le début de l'histoire de Joseph. Donc, la prédication concerne les chapitres 37 à 39. Je vais simplement lire le chapitre 37 et puis faire un bref résumé des deux chapitres suivants. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, en Genèse 37. Et on va lire les 36 versets du chapitre 37. Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femmes de son père. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, Ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là ? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je veux t'envoyer vers eux. » Joseph répondit, « J'y vais. » Son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, « Que cherches-tu ? » « Je cherche mes frères, lui dit-il. « Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux ?»« Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme. « Je les ai entendus dire, « Allons vers Dothan. » Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. « Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. « C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. » Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, « Ne portons pas atteinte à sa vie. » Il ajouta, « Ne répandez pas le sang, jetez-le dans la citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Puis, ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus, que vais-je faire maintenant ?» Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob la reconnut et s'écria, « La tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Et il dit, « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'histoire de Joseph s'ouvre avec un portrait de famille. C'est comme ça qu'on pourrait appeler les quatre premiers versets de notre passage. C'est une sorte d'instantané de Jacob et de ses fils. La situation de la famille au temps zéro du début du récit. Rachel, l'épouse préférée de Jacob, est déjà morte. Et d'elle, il ne reste à Jacob que Joseph et Benjamin qui est encore tout jeune. Jacob préfère Joseph au fils qu'il a eu avec Léa et les servantes de ses femmes. Et il manifeste ouvertement son favoritisme en offrant à Joseph une tunique magnifique, un vêtement princier, qui s'accompagne probablement d'autres attentions. Joseph, de son côté, entre dans le jeu en allant rapporter à son père les mauvais propos de ses frères qui le prennent en haine au point d'être incapable de lui parler aimablement. On le voit tout de suite, cet instantané du clan de Jacob n'est pas une photo de famille tout sourire, telle qu'on peut voir sur les cartes de Noël. Les rancœurs à peine dissimulées couvent, la situation est explosive, il ne suffit que d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. En fait, ce point de départ du récit de Joseph est aussi l'aboutissement d'une histoire encore plus longue. On en est ici à la quatrième génération depuis Abraham. Et si on lit quelques chapitres avant, eh bien on s'aperçoit que la tromperie et la haine ont pris ancrage dans cette famille depuis quelques générations déjà, avec en particulier une succession de frères ennemis. Il y a eu Isaac et Ismaël, mais ils étaient plus les objets de tension que les acteurs eux-mêmes. Mais ensuite, il y a eu Ésaü et Jacob, Ésaü qui, dans sa colère, a voulu tuer Jacob. Et puis, on arrive ici, avec les frères de Joseph, à une nouvelle étape dans la progression de la violence. Cette fois-ci, les frères n'ont pas seulement l'intention de tuer Joseph, mais ils passent à l'acte. Alors, ils ne commettent pas de meurtre, mais ce n'est pas parce que le cœur leur en manquait. Ce phénomène d'amplification de la méchanceté donne l'impression que le mal est en train de gagner et qu'il aura le dernier mot. Qu'est-ce qui va donc arrêter cette progression du mal? C'est dans ce contexte que le premier acte, le premier drame se déroule. D'un côté, il y a le personnage de Joseph, Joseph qui profite des largesses paternelles et qui accumule les maladresses en faisant le rapporteur, en s'empressant de partager ses rêves grandioses. Il semble avant tout naïf, peut-être tout à ses rêveries et un peu déconnecté de la triste réalité. Il ne voit pas qu'il se rend odieux à ses frères. Alors quand Jacob demande qui veut bien aller voir les frères, eh bien Joseph est plein de bonne volonté. Il n'est pas lucide et il semble plutôt un peu paumé. C'est tout l'inverse d'un calculateur. De l'autre côté, à l'opposé de l'attitude naïve de Joseph, on a les frères qui, eux, calculent leur coup. Il est dit 4 fois en 11 versets qu'ils nourrissent de la haine contre Joseph. L'envie de se débarrasser de Joseph est bien présente, ce n'est que l'occasion qui manque. Elle se présente quand ils voient Joseph venir à eux démunis. Et à partir du verset 18, le récit va adopter leur point de vue, un point de vue qui est sans pitié. Joseph ne dit plus une parole, comme pour signifier que les frères restent sourds à ses supplications. Ce ne sera que bien plus tard, au chapitre 42 de la Genèse, que les frères rapportent que leur conscience leur aura dit « Nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. » Mais notre récit ne partage pas ces supplications de Joseph. Parmi les frères, deux se distinguent. Il y a Ruben qui veut secrètement épargner Joseph en tant que fils aîné. Il se sent probablement une responsabilité particulière. En fait, on sait qu'il avait perdu son droit d'aînesse parce qu'il avait déshonoré son père avec la femme de celui-ci. Alors, peut-être qu'on peut imaginer qu'il envisage de libérer Joseph pour regagner la faveur de son père. Mais finalement, c'est Judas qui emporte l'adhésion du groupe. Très pragmatiquement, il en appelle aux intérêts des frères. Se débarrasser de Joseph, sans se charger d'un fratricide, mais en gagnant de l'argent. Quelle bonne affaire! C'est ainsi qu'ils vendent Joseph à la caravane de Madianites qui passe. À leur violence, ils ajoutent la perfidie d'une mise en scène destinée à tromper Jacob. Ils envoient la fameuse tunique tachée de sang à leur père avec cette question « Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Ils ne disent pas de notre frère. Ils laissent à Jacob le soin de tirer lui-même les conclusions. Ce n'est pas eux qui auront dit que Joseph avait été dévoré. À la suite de ce premier drame, Joseph se retrouve chez Potiphar, un haut fonctionnaire égyptien. Il réussit dans tout ce qu'il entreprend grâce à l'aide de Dieu. Et Potiphar finit par le laisser gérer toutes ses affaires. C'est alors que la femme de Potiphar tente de séduire Joseph, en vain, car il refuse de trahir la confiance de son maître et de pécher contre Dieu. Un jour, Joseph ne peut échapper à la femme de Potiphar qu'en lui laissant son manteau entre les mains. En lisant le récit, on pourrait se demander un instant si la femme n'était pas embêtée de se retrouver avec cet objet compromettant entre les mains. Mais non, pas elle. La femme de Potiphar a toute la ressource nécessaire pour retourner la situation à son avantage. Elle appelle ses serviteurs qui n'ont rien vu de la scène, mais elle les transforme en quelque sorte en témoins en leur disant sa version des faits. Et puis elle attend le retour de son mari, toujours avec le manteau à côté d'elle. Cette mise en scène que le mari va pouvoir voir immédiatement en entrant va faciliter son adhésion à ce qu'elle dit. Potiphar tombe dans le panneau et il jette Joseph en prison. Joseph est encore une fois la victime muette d'une profonde injustice, encore une fois par le biais d'une tunique qui sert de fausse pièce à conviction. La femme de Potiphar reçoit la palme de la manipulation. Elle entre aux côtés des frères de Joseph dans la galerie des méchants de l'histoire, des personnages abjects qui brisent la vie de Joseph et qui coupent court à l'avenir qui lui semblait promis. Et Joseph, dont le caractère s'affirme maintenant comme éminemment intègre, Joseph n'est pas récompensé pour son intégrité. Deux drames donc, deux déchéances sociales qui sont relatées au chapitre 37 et 39. Mais entre les deux, il y a le chapitre 38. Et il y a une histoire bien étrange au chapitre 38. Si on parlait en termes modernes, on dirait qu'on a au chapitre 38 un spin-off. Qu'est-ce qu'un spin-off ? C'est une histoire dérivée bâtie autour d'un personnage secondaire du récit. Ici, c'est Judas. Le chapitre 38 raconte des événements de la vie de Judas et ça se déroule sur de nombreuses années. Vers l'époque où Joseph est vendu, Judas épouse une femme cananéenne. Il a trois fils d'elle. Quand l'aîné grandit, Judas le marie à Tamar, une femme cananéenne. Mais ce fils meurt, et selon la coutume en vigueur dans plusieurs peuples de l'époque, le second fils de Judas épouse Tamar pour lui donner une descendance, mais celui-ci meurt à son tour. Alors Judas promet à Tamar son troisième fils, mais il ne tient pas parole parce qu'il n'a pas envie que son fils meure à son tour. Lassée d'attendre, Tamar se déguise en prostituée. Elle séduit Judas en lui extorquant au passage des gages qui prouvent son identité. À la suite de cela, Tamar devient enceinte et quand ça se découvre, le patriarche de la famille, Judas, ordonne qu'elle soit exécutée pour prostitution, mais grâce aux gages, elle révèle l'identité du père de l'enfant qu'elle porte. Judas est obligé de reconnaître qu'il est encore plus coupable que Tamar. En fait, il dit « elle est plus juste que moi ». Un drôle de standard de justice, et la note finale de cet épisode édifiant, eh bien, c'est que Tamar accouche de jumeaux. Voilà une histoire bien étrange. Où est la morale ? Où est la justice dans tout ça ? Et puis, pourquoi cette histoire se trouve-t-elle là, en plein milieu de l'histoire de Joseph ? Judas multiplie les compromissions et les péchés. Un mariage avec une cananéenne pour lui-même et pour ses fils. La tromperie, puisqu'il se défausse de la parole qu'il avait donnée à Tamar, l'inconduite sexuelle, et puis une hypocrisie sans fond, puisqu'il veut faire exécuter sa belle-fille pour prostitution, alors que lui-même en fréquente. Au verset 3 du chapitre 38, le récit nous rapporte un détail bizarre, apparemment insignifiant. Quand sa femme accoucha du troisième fils, Judas se trouvait à Kézib. Pourquoi signaler que Judas se trouve à Kézib, on ne sait même pas où c'est, quand sa femme donne naissance à leur troisième fils ? Le mot Kézib en hébreu a la même racine que le verbe kazav qui veut dire mentir, tromper. Et le fait que ce détail se trouve dans le récit montre comment le narrateur voit Judas. Il n'y a pas de condamnation explicite de Judas dans le récit, mais on n'est pas dupe. Judas est un menteur, c'est un fourbe. À côté de cette accumulation éloquente de fautes, la fin de l'épisode surprend. Judas reçoit une grande bénédiction, la naissance non pas d'un fils, mais de deux, dont l'un sera Pérets. Pérets, c'est l'ancêtre du roi David. Et donc on se demande après cette histoire, mais les méchants gagnent-ils donc à la fin? Pendant longtemps, les commentateurs bibliques ont pensé que ce chapitre 38 a été placé là, entre chapitre 37 et 39, de façon maladroite par un éditeur qui n'aurait pas beaucoup de sens littéraire, pour interrompre ainsi l'histoire de Joseph. Mais ces dernières années, on a commencé à se demander si cette insertion donc de l'histoire de Judas dans l'histoire de Joseph n'avait pas une fonction narrative, si elle ne contribuait pas justement à éclairer l'histoire de Joseph. Mis à côté du second drame de Joseph, l'histoire de Judas et Tamar renforce le paradoxe. Là où Judas a une conduite immorale, en particulier dans le domaine sexuel, Joseph reste irréprochable. Le résultat, Judas a des jumeaux, Joseph se retrouve en prison. Non, décidément, l'intégrité ne paye pas. Alors on pourrait dire que l'intégrité ne paye pas tout de suite, mais plus tard, car on connaît la suite de l'histoire. Mais c'est peut-être un peu facile de dire ça, donc on ne peut pas le dire avec désinvolture, car 13 ans se sont écoulés entre le moment où Joseph est vendu comme esclave et le moment où il sera élevé à la tête de l'Égypte. Avant que ses rêves se réalisent et que ses frères se prosternent devant lui, 22 ans auront passé. Le message du narrateur biblique, ce qu'il veut montrer, il me semble, ce n'est pas seulement qu'à la fin, tout est bien qui finit bien, qu'à la fin, les méchants perdent. Le message est plus complexe et beaucoup moins rassurant. Dans un monde en proie au mal, où l'injustice est une réalité bien présente, il y a des gens qui s'y adonnent même avec une grande expertise et en toute impunité, semble-t-il. Les conséquences sont graves. Ce sont de profondes souffrances, des vies brisées, des avenirs détruits, des pays dévastés. Quant à l'intégrité, elle n'est pas toujours récompensée. Pire, elle peut coûter très cher. Alors, le récit soulève de nouvelles questions. Et Dieu, que fait-il? Où est Dieu au temps de l'injustice? On ne sait pas grand-chose des états d'âme de Joseph à travers ses tribulations. Mais il apparaît que sa foi en Dieu ne l'a jamais quitté, surtout dans les moments cruciaux. Quand il est tenté par la femme de Potiphar, il refuse de pécher contre son maître et contre Dieu. Quand plus tard, il se retrouvera devant le Pharaon, il donnera tout le crédit à Dieu pour son aptitude à interpréter les rêves. La foi de Joseph n'a pas flanché. Elle ne reposait pas sur la capacité de Joseph à voir Dieu le bénir. La foi de Joseph était un engagement profond envers Dieu que les pires circonstances n'ont pas pu remettre en question. L'injustice qu'il a soufferte ne l'a pas fait douter de Dieu, ne l'a pas fait douter de la bonté de Dieu ou de sa force. Et Dieu est resté son maître. Le récit montre aussi que Dieu n'a pas laissé Joseph complètement dans le brouillard. Il lui a donné des signes de sa présence quand il était esclave chez Potiphar, quand il était prisonnier dans la prison royale. C'est Dieu qui fait prospérer tout ce que Joseph entreprend. C'est Dieu qui lui fait gagner la faveur de ses maîtres. Et cette réussite extraordinaire montre à Joseph que Dieu ne l'a pas abandonné. Et on peut imaginer que ça a été des signes particulièrement précieux et bénéfiques après les événements traumatisants que Joseph a vécu. Mais ce ne sont pas ces succès qui viennent renverser les terribles injustices dont il a été victime. Pour le moment, l'action de Dieu qui répare les torts, qui rétablit la justice, cette action est cachée aux yeux de Joseph. Ce ne sera que de nombreuses années plus tard qu'il réalisera que Dieu a fait de lui l'instrument par lequel sa famille et beaucoup de personnes seront sauvées de la famine. Dieu était à l'œuvre à travers les injustices, mais cela, Joseph n'en savait rien. Parfois, les méchants réussissent. Souvent, les méchants réussissent pour un temps. C'est la dure réalité de la vie, y compris de la vie chrétienne. C'est pour un temps limité, nous le savons, car Jésus, le juste juge, reviendra pour établir un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais en attendant, ce temps limité peut nous sembler long. Et nous devons vivre avec l'injustice, comme Joseph l'a fait pendant de nombreuses années. Le récit de Joseph pose des questions difficiles qui viennent mettre à mal une vision édulcorée de la vie avec Dieu, une vision qui dirait « avec Dieu, tout ira mieux que sans Dieu ». Alors c'est vrai, notre foi est une source de grande bénédiction dès maintenant, et on le célèbre avec raison. Mais notre foi peut être en même temps une cause de souffrance dans un monde en rébellion contre Dieu, dans un monde en proie au mal et à l'injustice. On ne peut le dire qu'en tremblant, mais on ne peut pas l'omettre. Il y a quelque temps, l'Institut biblique de Nogent a publié un article intitulé « Comprendre et atteindre la culture jeune ». L'auteur de l'article s'appuie sur une analyse de la culture jeune d'aujourd'hui et des échecs du passé pour proposer des pistes pour partager l'évangile avec les jeunes. Et il dit ceci en particulier. Les études réalisées aux États-Unis montrent que là où l'Église n'a pas su garder la génération Y, donc en gros les gens qui sont nés entre 1880 et 1999, bien dans ces églises-là, l'enseignement correspondait souvent à du moralisme théiste thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est ? En résumé, c'est de dire « Dieu t'aime et prendra soin de toi si tu te comportes bien ». Cet enseignement encourage plus à suivre des principes moraux qu'à appartenir à Jésus le Maître. Il laisse entendre que si on suit Dieu, tout ira bien, au lieu d'enseigner un discipulat qui inclut la souffrance, la mort à soi-même et le sacrifice. Il laisse peu de place au défi et à la mission qui pourrait donner une raison de vivre à cette génération. Un discipulat qui inclut la souffrance, la mort à soi-même et le sacrifice, un discipulat qui prend en compte les défis de la vie chrétienne et de la mission, les mots sont forts. Mais c'est probablement ce genre de discipulat que Joseph a appris. Et c'est ça qui lui a permis de tenir bon face à tant d'injustices. C'est ça qui lui a permis de rester fidèle à son Dieu. Alors, tenons bon, nous aussi. Apprenons à nos jeunes à tenir bon, même quand les méchants réussissent. Nous voulons dire notre foi, pas seulement en citant nos bénédictions, les réussites, mais aussi en disant notre espérance, malgré l'injustice, malgré les souffrances. Nous pouvons reprendre à notre compte les mots du psalmiste dans le psaume 73 que j'ai cité en début de prédication et qui dit ceci « Qui ai-je au ciel si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur la terre ? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, nous tenons devant toi, Seigneur, avec tous nos questionnements, nos révoltes parfois devant l'injustice qui règne sur cette terre. Seigneur, nous voyons ton œuvre, mais pour une grande part, elle est encore cachée à nos yeux. Merci, Seigneur, pour l'espérance, l'assurance que tu nous as donnée de voir ta justice pleine et entière établie sur notre terre quand Jésus reviendra. Seigneur, sans cette assurance, comment pourrions-nous vivre comme nous l'avons lu, Seigneur, ce matin ? Qu'adviendrons-nous si nous n'avions pas l'assurance d'expérimenter ta bonté au pays des vivants et, Seigneur, de voir ta gloire au retour de ton Fils ? Seigneur, nous remettons à toi avec nos difficultés, nos faiblesses, Seigneur, notre manque de foi. Donne-nous le courage de tenir bon
de continuer à rechercher la justice, d'avoir faim et soif de justice, Seigneur. De l'enseigner aussi à nos enfants, que nous puissions, Seigneur, leur donner de comprendre que toi, tu es toute notre espérance. Merci d'être avec nous aujourd'hui et pour tous les jours. Amen.